France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est Paul Guig. C'est le deuxième volet de notre série « Où va Israël ?», bientôt 2 ans après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, une société face au traumatisme et face au carnage, toujours en cours, à quelques kilomètres de là.
On voit beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à l'école ou avec leurs amis. Certains ont peur de sortir de leur maison, de jouer à nouveau. Certains enfants regardent les informations très régulièrement et c'est évident que la situation les influence beaucoup.
Nous terminerons par un message direct au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Si vous envahissez certaines parties de Gaza et que les otages sont assassinés, nous vous poursuivrons sur les places publiques, lors des campagnes électorales, à tout moment et en tout lieu.
En Israël, les deux Israël existent bel et bien. Ça n'a rien d'un slogan. Ce sont deux peuples qui n'ont rien en commun, qui ne parlent plus le même langage, qui pratiquent un hébreu différent.
Deux peuples qui ne parlent plus la même langue, disait ici en juin l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi. Deux peuples qui, en revanche, ont une même méconnaissance du troisième. Le court espace qui sépare leurs collines est devenu un abîme immense. En 2018, temps qui paraît bien lointain aujourd'hui à Tel Aviv, un journaliste israélien, Yossi Klein-Helvi, avait écrit une lettre à son voisin palestinien. « Je vous appelle voisin parce que je ne connais ni votre nom ni rien de personnel à votre sujet. Dans les circonstances qui sont les nôtres, le mot « voisin » est peut-être trop familier, nous sommes des intrus dans les rêves l'un de l'autre, des profanateurs du sentiment de chez soi de l'autre. J'ai cru un jour que nous finirions par nous rencontrer et je vous écris avec l'espoir que cela soit encore possible. 7 ans plus tard, les massacres du Hamas ont manifestement fait changer d'avis l'auteur de ces mots, ou plutôt de langue. Il suffit de jeter un œil sur ses derniers articles très virulents dans le Times of Israel. Mais un jeune journaliste français, Dimitri Kir, a repris cette idée d'ouvrir cette voie minuscule du dialogue entre Israël et Gaza. Dans un livre qui vient de paraître, Nos cœurs invincibles chez Flammarion, deux jeunes femmes, Tala à Gaza et Michel à Tzoran, parlent de leur quotidien, de leurs études de droit, de leur lecture et de leurs projets pour l'avenir. Au début, chacune sur la défensive, elles arrivent quand même à discuter et Michel de déplorer qu'autour d'elle en Israël, personne n'arrive à voir au-delà de sa propre douleur. Alors que Benjamin Netanyahou vient d'accepter le plan de Donald Trump en 20 points pour mettre fin à la guerre, nous en parlons jeudi. Nous consacrons cette émission à la société israélienne entre traumatisme du 7 octobre et déni de ce qui se passe à Gaza. Bonjour Emmanuel Elbaz-Phelps.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, correspondante du Point en Israël, éditorialiste également à la télévision israélienne. Alors on recevra dans quelques instants la sociologue Karine Lamarche, sociologue du politique. Ben on me dit que vous êtes là, Karine Lamarche. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous en duplex depuis ici, Occitanie, à Toulouse. On a eu quelques petits problèmes de liaison, mais on y arrive. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, rattachée au Centre Nantais de Sociologie. Vous coordonnez le projet ANR Choice, qui s'intéresse, je cite, aux remises en question de l'ordre hégémonique en Israël. Emmanuel Elbaz-Phelps, pour commencer avec vous, qui êtes en ce moment à Tel Aviv, comment seront commémorés la semaine prochaine les attentats du 7 octobre? Est-ce qu'on le sait déjà?
Oui, oui, tout à fait. Le 7 octobre, il y aura la cérémonie qui est la cérémonie citoyenne, qui est en fait organisée par les familles des victimes et une association qui s'est créée juste après le 7 octobre qui s'appelle Koumou, Levez-vous, qui a été créée entre autres par Yonatan Shimriz. Yonatan Shimriz est le frère d'une personne qui a été enlevée à Gaza et un des trois otages qui ont été tués par erreur par l'armée en essayant de s'enfuir du Hamas dans la bande de Gaza. Et il a organisé l'année dernière aussi avec cet organisme cette cérémonie qu'ils appellent une cérémonie citoyenne et qui ne donne pas de place aux politiques israéliens, au gouvernement en place. Le choix est de dire que le gouvernement qui était donc aux commandes le 7 octobre et qui n'a pas su éviter cette attaque terroriste du Hamas, qui n'a pas su l'empêcher, ne peut pas être aussi celui, puisqu'il ne prend pas ses responsabilités et continue d'être en place, le gouvernement ne peut pas être celui qui décidera de comment raconter cette histoire, de comment commémorer le 7 octobre. Ce qui va se passer, c'est une grande cérémonie dans un parc à Tel Aviv, comme l'année dernière, avec énormément d'artistes israéliens, avec beaucoup de témoignages de familles. Et il est prévu cette année d'entendre des nouveaux témoignages qui n'ont pas encore été racontés, parce qu'on va en parler en réalité en Israël, qui est un peu une société bloquée sur le 7 octobre et qui dépend énormément de la libération ou non des otages qui restent à Gaza. On parle moins de la tragédie elle-même du 7 octobre. Et il y a encore beaucoup d'histoires horribles, difficiles à raconter. Il y aura une deuxième cérémonie officielle plus tard sur la date hébraïque qui tombe le 26 octobre. Celle-là sera organisée par le gouvernement et il s'agira de cérémonies sur le mont Herzl, en l'occurrence à Jérusalem.
Donc aujourd'hui, les regards, les cœurs sont plutôt tournés vers les otages israéliens. Ils sont une cinquantaine toujours aux mains du Hamas. On ne sait pas si tous sont encore vivants. A priori non, 20, 25 peut-être sont déjà morts. Les cœurs également tournés vers les soldats de l'armée israélienne, dont les mères notamment se lèvent pour dire non à la guerre, il faut finir. Alors, encore une fois, ce n'est pas le sort des civils qui est en jeu ici dans les discours que l'on entend ou dans les entretiens que vous avez recueillis, par exemple, auprès de certaines mères de soldats. Mais comment elle se fait entendre et voir cette guerre à Gaza? D'abord, est-ce que vous l'entendez depuis Tel Aviv?
Ça arrive, mais c'est très rare. Il arrive dans le sud de Tel Aviv en étant à Jaffa. Il peut nous arriver d'entendre des détonations lointaines. Cette guerre, on l'entend très bien quand on est dans les localités qui sont plus dans le sud d'Israël. Évidemment, en bordure de la bande de Gaza, tous les kibboutz et les localités qui ont été attaquées, notamment. Il m'est arrivé d'être il y a quelques semaines à Nir Oz et de sursauter du fait des détonations qui sont très, très fortes. Et il s'agit des opérations militaires de l'armée israélienne à Gaza. Mais les gens qui habitent à Ashkelon, à Sderot, à Ashdod, oui, entendent la guerre à Gaza. Dans le reste du pays, la guerre est présente sous plusieurs formes. D'abord parce que la guerre, les otages, les posters, les pins jaunes, les manifestations, c'est vraiment dans la rue, c'est dans le contexte visuel, c'est présent tout le temps, à la télévision aussi. Comme vous l'avez dit, la guerre est présente par le prisme des otages et des soldats, principalement. On va en parler peu en regardant ce qu'il se passe au niveau humanitaire à Gaza. Ce qui se passe, il faut le dire aussi, la guerre en Israël, c'est aussi les tirs balistiques qui viennent toujours des Houthis du Yémen et qui font courir des millions d'Israéliens aux abris au milieu de la nuit, au milieu de la journée, y compris les enfants quand ils sont à l'école. Et puis les drones aussi, voilà. Donc c'est comme ça qu'on ressent encore de façon très présente la guerre.
À Sderot, la ville israélienne la plus proche de Gaza, les habitants ont 15 secondes pour se mettre à l'abri. Quand les sirènes retentissent, quand vous vous éloignez dans le centre d'Israël, il faut une minute. On parlait de Google Maps la semaine dernière dans Culture Monde. L'application indique les abris anti-bombes pour la population. À la radio, Emmanuel Elbaz-Phelps, à la radio chaque matin, la radio publique ou celle de l'armée, il y a toujours une veuve, une orpheline ou le meilleur ami des proches de soldats qui se font tuer la veille. C'est quelque chose qui, dans les médias israéliens, est toujours, toujours présent aussi.
Oui. Quand vous avez l'annonce de la mort d'un soldat, Vous avez immédiatement un proche, une veuve, son père, sa mère, qui vont parler de lui, qui vont raconter, et qui vont commencer à faire un travail de mémoire et ne pas le laisser partir dans le silence. C'est quelque chose qui est très présent et c'est quelque chose qui est très représentatif de la société israélienne. C'est pareil d'ailleurs pour les familles des otages qui continuent à être interviewées tous les jours, constamment, et à être au maximum sur les antennes pour parler de leurs proches et laisser des noms et des visages à ces gens qui ne sont pas que des otages. 20 personnes sont encore en vie à Gaza. Plus d'une vingtaine de corps doivent être rapatriés pour être enterrés comme il le faut. Et ces gens-là, les familles veulent absolument pas qu'on en fasse des slogans de guerre, mais que ce soit réellement, ça reste humain. Et ça représente aussi la société israélienne dans le sens où, comme vous le savez, l'armée est une armée de circonscription, donc tout le monde va à l'armée. Et le soldat qui est à Gaza aujourd'hui, c'est le prof de l'école des enfants, ou bien le primeur, ou bien le voisin, ou bien l'oncle, ou bien le fils. Et donc tout le monde se connaît, c'est un petit pays. Et donc il n'y a pas réellement de séparation entre la vie civile et la vie militaire. Et les interventions, oui, à la radio et la télé des proches, des personnes qui ont perdu leur vie dans cette guerre, c'est quelque chose qui accompagne la société israélienne de façon quotidienne.
Alors, est-ce que tous les Israéliens ont aujourd'hui accès à une information, disons, large, nuancée, honnête, même, il se trouve Emmanuel Elbaz-Phelps, que vous êtes vous-même journaliste indépendant, donc vous connaissez les médias, vous savez la difficulté ou pas de réussir à proposer des sujets à certaines chaînes, à certains journaux. Ça va me permettre d'accueillir plus amplement Karine Lamarche dans cette discussion, mais d'abord de l'intérieur. Au début, peu de temps après le 7 octobre, des Palestiniens ont célébré dans les rues les massacres du Hamas et les télévisions israéliennes ont largement montré ces effusions de joie, ce qui a nourri l'impression d'être l'objet d'une haine profonde, mais tout le reste depuis, ce que les Israéliens savent et ne savent pas, y compris vous quand vous faites des interventions à la télévision et que vous dites, parce qu'il me semble que vous faites partie des journalistes qui disent ce qui se passe à Gaza, quelle réaction ça suscite ? Est-ce que les gens, tout simplement, vous croient ?
En fait, moi, je pense que je fais partie des journalistes juste qui essaye de compléter l'image là où elle est manquante. En tout cas, de faire le travail, d'essayer d'apporter la complexité du terrain. La question que vous posez est une question très, très compliquée et très importante dans le débat. J'aimerais juste établir quelques bases dans ce discours. La première, c'est que déjà en Israël, il n'y a pas de censure. Tout peut être dit, tout peut être montré. Les médias sont libres. Alors, il y a des systèmes d'autocensure compliqués, un travail très populiste du gouvernement depuis des années pour définir les limites du débat public, et ça marche. Nous, les journalistes, nous avons une tendance à l'autocensure qui est un petit peu compliquée à expliquer rapidement, mais on peut tout montrer, on peut tout dire, et certains médias, comme j'imagine qu'on va en parler plus amplement, mais le quotidien Haaretz, par exemple, vraiment amène la réalité de la situation à Gaza, y compris un passage vidéo dans les hôpitaux de Gaza pour montrer l'état précaire des enfants gazaouis. Donc ça, si les Israéliens veulent avoir une information complète, ils peuvent, ils ont accès, ils ont les réseaux sociaux. Donc, vous avez raison sur le fait que, en réalité, sur les grands médias de télévision grand public, la réalité de la situation humanitaire à Gaza et inexistante, alors peut-être pas inexistante, ça change ces derniers temps, mais en tout cas est très 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 manquante. Depuis le premier jour de la guerre, on voit des images de la destruction aérienne de Gaza. Ça montre un petit peu la victoire militaire. On ne voit évidemment pas d'histoire humaine, de sourires, de larmes, de visages de maman, d'enfants. C'est presque inexistant. Il faut ajouter à ça, l'expliquer avec plusieurs points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'accès aux journalistes internationaux à Gaza, ni aux journalistes israéliens, si ce n'est quand ils sont accompagnés par l'armée et que donc ce que l'on peut voir et montrer est très limité. La deuxième chose, c'est qu'on se trouve en guerre et la situation est une situation dans laquelle ces Palestiniens, qui sont aujourd'hui dans une situation, une catastrophe humanitaire horrible, en fait, c'est le lieu d'où sont sortis les ennemis, le Hamas, qui est venu attaquer Israël. Et il faut peut-être se poser la question de Est-ce qu'il est juste de demander aux Israéliens de regarder de l'autre côté de la frontière? C'est une question que les citoyens, la population peut se poser. Les journalistes, les médias ne doivent pas se la poser, doivent amener la réalité telle qu'elle est sur le terrain, puisque de toutes les façons qu'on la voit ou pas, elle existe. Et alors, ça fera, c'est une évidemment, ce sont des informations qui sont essentielles pour les citoyens d'une démocratie pour laquelle ils se battent.
Alors, il y a eu il y a quelques semaines des fuites d'une boucle WhatsApp de discussion entre journalistes de la chaîne Canal 12, chaîne de télévision. Des fuites qui montrent le genre de débat autour de la couverture de la crise humanitaire à Gaza. Parmi les journalistes de cette chaîne, certains parlent de la couverture de la crise humanitaire à Gaza comme d'un impératif journalistique et d'autres comme d'un service qu'on rendrait au récit de l'ennemi, du Hamas. Et d'après ces journalistes, il ne faudrait pas en parler. Je pense que la situation est encore plus caricaturale sur les télévisions, la chaîne 14 ou I24 qui soutiennent très ostensiblement la coalition au pouvoir. En deux mots, la journaliste Gwenaëlle Lenoir, qu'on aime beaucoup à Culture Monde, qu'on a beaucoup reçue pour parler du Soudan, elle a également beaucoup travaillé sur Israël. Et lors de la courte guerre contre l'Iran en juin, elle a regardé plein de chaînes de télévision qui toutes avaient ajouté un drapeau national dans le coin de l'écran avec des slogans patriotiques « Nous combattons ensemble, nous vainquons », sauf pour la chaîne publique, mais la chaîne publique avait également mis un drapeau. Et elle a demandé à un expert de regarder avec elle, l'expert israélien, qui dit « Là, on a du mal à différencier les commentateurs et les experts des journalistes. Les journalistes disent « Nous », quand ils parlent de l'armée, des services de renseignement ou des autorités, ils posent pas de questions non plus à leurs invités qui sont eux-mêmes des services de renseignement, de l'armée, etc. Mais il y a aussi, Karine Lamarche, des journalistes beaucoup plus durs avec la politique de destruction systématique de Gaza par l'armée israélienne, y compris, comme le disait Emmanuel Elbaz-Phelps, chez Haaretz. Vous avez parcouru cette presse, je l'imagine, ces derniers mois. Qu'est-ce que vous avez vu à la fois dans la façon dont les journaux traitent cette guerre, dans l'évolution peut-être des termes employés?
Alors, en ce qui concerne Haaretz, évidemment, Haaretz est un des journaux qui couvre la situation à Gaza, qui n'a pas de journaliste sur place, hein, puisqu'il n'y a pas de journaliste, comme ça a été précisé, autorisé à entrer à Gaza, mais qui néanmoins a une couverture très importante et une critique très très virulente. Certains de ces journalistes ont dénoncé très clairement les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Certains n'hésitent pas à utiliser aussi l'appellation de génocide pour parler, pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Ça a valu d'ailleurs des attaques du gouvernement contre ce média. Il faut peut-être aussi mentionner l'existence d'un autre média qui est beaucoup plus confidentiel, mais qui est néanmoins important, je pense, qui a une version en anglais qui s'appelle +972 et une version en hébreu qui s'appelle Sicha Mekomi, qui veut dire appel local, en référence au numéro de téléphone commun aux Palestiniens et aux Israéliens, hein, ce +972, et qui en fait non seulement est composé d'une équipe où il y a des journalistes juifs israéliens et des journalistes palestiniens, que ce soit des Palestiniens citoyens d'Israël, des Palestiniens basés en Cisjordanie ou à Gaza. Ils ont aussi des personnes qui travaillent à Gaza et qui du coup relaient des informations de première main. Ce sont des médias qui ont contribué à faire sortir un certain nombre d'informations très importantes. Alors même s'ils sont confidentiels et qu'ils sont peu lus en Israël, ils ont un rôle important parce que certaines de leurs enquêtes, je pense notamment à celle menée par Yuval Abraham, qui a révélé l'utilisation par l'armée israélienne des logiciels Lavender et Whois Dali, ont été reprises ensuite massivement par des médias du monde entier. Donc à la fois à Haaretz, qui a évidemment une présence beaucoup plus importante, beaucoup plus large, et ces médias qui sont beaucoup plus confidentiels jouent un rôle important dans la diffusion de ces informations.
+972 qui en effet se consacre beaucoup à des enquêtes, mais qui publie aussi des entretiens, des tribunes, et tout récemment un long entretien avec le sociologue israélien Ron Doudaï, qui dit que la société israélienne a élevé le déni au rang de véritable art. C'était même le titre de sa tribune, que face au déluge de photos, de vidéos montrant des civils morts, des enfants affamés, des quartiers réduits en cendres, les Israéliens ont tendance, écrit-il, c'est ce qu'il dit, à penser que c'est de l'intelligence artificielle qui a créé ces photos, ou que les parents que l'on voit bercer des enfants, parfois être au chevet d'un enfant très malade ou mort, ce sont des acteurs, et que l'enfant c'est une poupée. Il y a ce mot qui a apparu dans les années 2000, importé des cercles de droite américaines. américain au début des années 2000, Pallywood. C'est ce mot valise qui est formé à partir des mots palestiniens et Hollywood. Et ce sociologue de conclure qu'après avoir nié la Nakba pendant des décennies, allant jusqu'à interdire le terme lui-même, les parlementaires israéliens aujourd'hui sont tout fiers de dire qu'Israël est en train de mener une deuxième Nakba à Gaza. À la limite, vous les connaissez mieux, Karine Lamarche, les politiciens de gauche, même eux, aujourd'hui ont signé, ils signent des pétitions qui condamnent comme antisémites la Cour pénale internationale, par exemple. On se demande quels sont leurs niveaux à eux et leurs sources d'informations, ces politiciens ou cette gauche-là que vous avez suivie de longues années et qui s'est montrée dans le passé plus sensible à la cause palestinienne.
Alors, je pense qu'il faut distinguer là de quelle gauche on parle, de quelle opposition on parle. Il y a quasiment pas d'opposition aujourd'hui au niveau politique en Israël, au niveau institutionnel. Ça représente très peu de parlementaires, en fait, l'opposition. Et effectivement, comme vous le dites, ils ont pris des positions de soutien total à la politique guerrière menée par la coalition au pouvoir. Il faut distinguer cette opposition là de l'opposition civile, j'ai envie de dire, enfin de l'ensemble des ONG, des groupes militants, des activistes de terrain qui sont très peu nombreux, qui représentent très peu de monde en termes de nombre, mais qui néanmoins ont une action sur le terrain qui, à mon avis, n'est pas à négliger. Et une action, notamment, là, vous citez ce sociologue Ron Oudai, de mise en lumière de ce déni général de la société israélienne à l'égard de ce qui est qualifié par de nombreux experts de génocide en cours à Gaza. Donc ça, c'est effectivement, il faut bien distinguer ces deux types d'opposition et le fait que une grande majorité, quand même, des Israéliens aujourd'hui, comme vous le disiez, ne regardent pas ce qui se passe à Gaza, ne s'intéressent pas à ce qui se passe à Gaza. Quand ils en ont conscience et qu'ils croient les faits, ce qui est déjà pas le cas de tout le monde, hein, comme vous avez précisé, effectivement, il y a aussi un déni et de nombreuses personnes qui disent tout ça c'est fabriqué, les chiffres sont faux, ce sont les chiffres du Hamas, les images sont fabriquées par l'intelligence artificielle ou par des studios, effectivement, de cinéma ou de voilà destinés à diffuser des images pour nuire à l'image d'Israël. Mais au-delà de ces personnes qui nient en bloc ce qui se passe, il y a aussi toutes celles qui disent, qui ne nient pas, mais qui disent mais c'est pas la faute d'Israël, en fait. On a été attaqué et on est dans une guerre de défense. Et donc oui, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça. L'armée israélienne fait son maximum pour faire le moins de victimes civiles. Et c'est aussi une forme de déni. Voilà, on a ces deux formes de déni qui coexistent.
Vous avez employé le terme de génocide, qui est également le terme employé par l'ONU. C'est un mot en Israël évidemment très chargé. Le professeur Amos Goldberg, qui enseigne l'histoire de l'Holocauste à l'université de Jérusalem, dit que les Israéliens ne pensent le génocide qu'à travers le référentiel de l'Holocauste. Lui qualifie de génocide les actions d'Israël à Gaza. Il a été interrogé par La Croix il y a quelque temps. Et ce mot commence à l'entendre en Israël, notamment dans la bouche de la directrice exécutive de l'ONG israélienne B'Tselem.
Israël commet un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le rapport rédigé par B'Tselem présente des faits, des données et des témoignages sur la manière dont Israël agit de manière délibérée, coordonnée et systématique pour détruire les Palestiniens de Gaza.
B'Tselem, ONG fondée par des avocats, des journalistes, des universitaires, des membres de la Knesset, elle a été créée à la fin des années 80 et ce rapport en juillet, Our Genocide, notre génocide, avait été coécrit avec Physicians for Human Rights Israel, donc une ONG qui alerte sur la condition des médecins à Gaza et du système de santé. Emmanuel Elbasfeld, c'est peut-être un petit mot sur ce mot de génocide. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous l'employez? Ou est-ce que au moins vous sentez que vous pouvez interroger vos interlocuteurs quand vous menez des entretiens sur ce mot-là? Ou c'est vraiment le tabou ultime?
Encore une fois, on peut tout dire en Israël. Le débat public sur le génocide, oui ou non, les crimes de guerre, oui ou non, les crimes contre l'humanité, oui ou non, il est très restreint en Israël, mais il n'est pas interdit. Rien n'est interdit. Moi, il m'est arrivé de poser les questions sur les différentes initiatives ou plans du gouvernement imposés à l'armée pour entrer dans la ville de Gaza et de demander sur le plateau télévision de définir les limites de l'opération autour de la définition des crimes de guerre. Donc c'est une discussion qui passe. Alors, je participe en général à des émissions très grand public, un petit peu chaotiques, où le débat n'est pas très posé. Et oui, ça passe mal. Il va y avoir tout de suite une réaction très instinctive où, par exemple, le présentateur m'a dit « Nous n'aimons pas entendre parler de crimes de guerre ». Et je lui dis oui, mais personne n'aime entendre parler de crimes de guerre. Mais c'est justement notre rôle de poser la question, de poser la question, d'alertir. Il n'est pas de mon rôle de définir si oui ou non, comment définir ce qui se passe à Gaza. Mais de poser la question, oui. Et c'est vrai que le débat est restreint, mais j'aimerais juste, si vous le permettez, revenir un tout petit peu en arrière sur la discussion.
Oui, rapidement,
et sur ce qu'a dit Karine. Rapidement, je crois que Karine Lamarche a très bien défini les choses en disant qu'en réalité, les Israéliens remettent la faute sur le Hamas, mais que cette idée de Pollywood et de ne pas voir et de penser que tout est de l'intelligence artificielle, c'est une petite partie de la société. Les Israéliens savent, ils sont accaparés par leur détresse. Et se refusent de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Il y a aussi un amalgame très grand entre qui est terroriste et qui est civil à Gaza, qui empêche de se poser des questions difficiles. Mais il est important de comprendre que tout est dit, y compris le député de gauche des démocrates, Gilad Kariv, qui va à la Knesset, le Parlement israélien, qui est filmé et ensuite c'est sur les réseaux sociaux, et qui crie contre la mort d'enfants à Gaza et qui demande aux autres parlementaires israéliens d'ouvrir leur cœur et de ne pas rester intransigeant face à la mort d'un enfant, car un enfant est un enfant, même s'il appartient à un autre peuple que le nôtre. Donc les choses sont dites,
tout le monde ne l'entend pas. Emmanuel Elbasfeld, sont apparus dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem, et je voudrais justement, puisque vous êtes sur place, que vous nous disiez l'ampleur ou pas de ce phénomène-là, mais on avait vu un moment qui était apparu dans des commerces notamment, ou sur des rétroviseurs, des pare-brises de télévision, des vignettes bleues, vous parliez tout à l'heure des pins jaunes en mémoire aux otages ou en soutien aux otages israéliens à Gaza, mais aussi ces vignettes bleues « finish them », finissez-les. Est-ce que vous en voyez beaucoup de ces vignettes bleues qui sont, on peut le dire, un appel à continuer le massacre, au contraire, et pas du tout ouvrir son cœur comme l'appelle ce député?
Alors très sincèrement, je n'ai jamais vu cette vignette.
D'accord.
Vous l'apprenez.
D'accord. Voilà. Mes sources. Non, mais parce que voilà, il y a eu pas mal d'articles, des photos également sur des voitures, mais aussi dans le livre de Marie Semelin, les certitudes qui vient de paraître. Elle connaît bien la région. Elle vient de d'écrire son premier roman, et il y a toute une scène où elle est dans un marché et elle voit ces vignettes partout. Mais je ne connais pas l'ampleur du phénomène.
Je ne remets pas en doute du tout la description des faits. Et il y a peut-être des quartiers où ça existe, mais ça ne doit pas être une ampleur donc très développée, puisque je n'ai jamais vu. Le discours de certains membres du gouvernement d'extrême droite et d'une partie aussi de la population qui est non négligeable, qui est de dire il n'y a pas d'innocents à Gaza. On entend bien parler certains membres du gouvernement qui n'ont pas forcément toujours un poids dans le cabinet de guerre, mais qui disent qu'il faut s'installer de nouveau à Gaza, qu'il faut des colonies juives, qu'il faut faire déplacer toute la population palestinienne. Tout ça d'ailleurs a été rejeté par la proposition présentée par Donald Trump en 20 points à la Maison-Blanche hier aux côtés de Netanyahou. Donc il serait intéressant de voir les réactions politiques à ce sujet. Tout ça existe. Les vignettes bleues dont vous me parlez, j'en ai pas connaissance.
Toute la société israélienne est rongée. Nous nous voilons la face quant à l'impact de cette guerre sur nos âmes et sur nos esprits. Et nous ne sommes qu'à la première étape. Pour guérir notre société, le premier pas à faire est d'admettre que nous avons commis des crimes de guerre, que nous avons déshumanisé les Palestiniens, indépendamment de ce qu'ils ont fait.
Menachem Klein, un politiste israélien, interrogé en juin par Mediapart. Karine Lamarche, pourquoi l'opposition à la guerre, la dénonciation des crimes de guerre, ne prend pas comme en 2002, l'été 2002, quand la société israélienne s'était animée d'un débat intense, qui était allé d'ailleurs jusqu'à la Cour suprême pour savoir s'il était moral de larguer une bombe d'une tonne sur un immeuble de Gaza, laquelle bombe avait à l'époque éliminé le chef de la branche du Hamas, mais aussi 15 autres personnes, dont 9 enfants et fait une centaine de blessés. Ça avait créé des manifestations dans tout le pays. Pourquoi ce mouvement-là ne prend pas cette année? D'ailleurs, qui portait ce mouvement à l'époque? Qu'est-ce qu'il est devenu?
Alors, je pense qu'on trouve une des réponses à votre question dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Menachem Klein qui intervient et qui parle de déshumanisation. Et la déshumanisation des Palestiniens, elle est extrêmement forte au sein de la société juive israélienne. Qui comprend, alors je dis juive israélienne, je précise, parce qu'on parle toujours de la société israélienne en oubliant parfois qu'il y a quand même 21% de la population israélienne qui est composée de Palestiniens, des Palestiniens citoyens d'Israël.
Mais d'ailleurs, est-ce si qu'à on parle votre uniquement connaissance...
de la population juive israélienne, ouais. Il y a une déshumanisation très forte des Palestiniens et qui déborde très largement. Il ne faut pas imaginer que c'est uniquement la droite ou les soutiens au gouvernement ou l'extrême droite, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça et ça permet d'expliquer à mon avis cette acceptation des atrocités qui sont commises actuellement à Gaza et le fait qu'une grande majorité d'Israéliens parvient à continuer à vivre à peu près normalement alors que se déroulent ces atrocités. Alors on parle de Gaza, je pense qu'il faut aussi évoquer la situation en Cisjordanie qui est absolument dramatique également, même si elle prend pas du tout les ampleurs de ce qui se passe à Gaza. Mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, il y a des centaines de personnes qui ont été assassinées, et il y a aussi de très nombreux prisonniers qui sont retenus dans les prisons israéliennes sans jugement.
Alors le bloc anti-occupation qui s'était formé lors des manifestations, notamment contre la réforme judiciaire, il y avait eu des tentatives pendant les manifestations contre la réforme de dire il n'y aura pas de démocratie tant qu'on ne prendra pas en compte la question palestinienne, sans remonter jusqu'à 2002 les grandes manifestations sur la moralité de certaines actions de l'armée. Là, c'est beaucoup plus récent, la réforme judiciaire et les manifestations contre. Est-ce que ces manifestations-là n'ont pas du tout constitué un socle pour des manifestations aujourd'hui contre la guerre à Gaza ?
Effectivement, pendant la réforme judiciaire, qui était un grand cycle de mobilisation qui a amené énormément d'Israéliens dans la rue et dont la majorité ne parlait pas de la situation des Palestiniens, il y avait ce que vous avez mentionné, qui est ce bloc anti-occupation, ou bloc radical, qui était une coalition d'organisations et de militants qui insistaient sur le fait qu'on ne pouvait pas parler de démocratie sans évoquer la question palestinienne, sans dénoncer l'occupation ou l'apartheid, c'était les mots qu'ils utilisaient. Et qui a manifesté aux côtés de la manifestation principale, on va dire, en essayant de faire entendre cette question palestinienne et la centralité de la question de l'occupation. Et ces militants du bloc radical, une partie d'entre eux ont continué à manifester, c'est-à-dire que en parallèle des manifestations pour le retour des otages ou de manière indépendante, il y a également des manifestations qui sont organisées à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, également par des personnes qui dénoncent le génocide en cours à Gaza. Ce sont les termes qu'ils utilisent, la famine, l'annihilation de Gaza, et qui, pour le coup, ont énormément de mal à se faire entendre. Ils avaient déjà du mal pendant la réforme judiciaire, mais ils parvenaient quand même à se maintenir dans cette mobilisation. Et là, actuellement, il faut savoir qu'ils ont été... un certain nombre de manifestations ont été interdites, ont été fortement réprimées. Ils parviennent ponctuellement à manifester, mais ils sont très peu audibles et ils sont toujours réprimés de manière assez forte.
C'est le cas par exemple à Tel Aviv où il y a tous les samedis place des otages, des rassemblements en mémoire ou en soutien aux otages à l'initiative du Forum des familles des otages et des disparus, des manifestations ou des rassemblements où un acteur lit la liste des otages morts et vivants à Gaza, on chante l'hymne national, mais il y a aussi Emmanuel Elbaz Phelps régulièrement dans le sud de la ville cette fois, un rassemblement hebdomadaire où on tient des pancartes qui portent chacune la photo d'un enfant palestinien tué pendant la guerre. Est-ce que ces images-là, on les voit sur les télévisions? C'est-à-dire les images de ces manifestations-là?
On les voit uniquement quand, à la fin des manifestations, il va y avoir des disputes violentes entre des soutiens d'extrême droite et ces manifestants, enfin des disputes, des attaques plutôt. Mais ces manifestations ont lieu, oui, en général, plutôt à Jaffa, dans le sud de Tel Aviv, dans le côté mixte de la ville. Mais il est arrivé aussi qu'elles aient lieu sur le centre de la ville, par exemple sur la place Abima. Mais la place Abima, c'est parce qu'elle avait été interdite, cette manifestation, dans un lieu plus large. Donc en effet, la police essaye de réduire les ampleurs de ces manifestations. Mais je crois qu'on est arrivé à un stade où la demande de fin de guerre est tellement large au sein de la société israélienne, parce que la grande majorité des Israéliens est persuadée que ce sera la seule façon d'obtenir la libération des otages, via un accord qui donc impose la fin de la guerre, que ce que vous avez décrit justement comme le bloc contre-occupation, anti-occupation, qui était vraiment mis de côté, aujourd'hui, dans la société israélienne, au sein des manifestants, il y a un petit peu la volonté d'accepter ces gens-là un peu plus, parce qu'en se disant, toute personne qui pourra permettre de nous mener vers la fin de la guerre et vers la libération des otages, il peut être rallié à notre cause. Mais on a vu aussi quelques épisodes, par exemple, de l'organisme Standing Together, qui est un organisme de juifs israéliens et palestiniens israéliens pour la paix, qui notamment essaye de distribuer de l'aide humanitaire à la frontière de Gaza, qui était très très marginale avant le 7 octobre, qui a été rejoint par beaucoup de nouveaux membres après le 7 octobre, de gens qui se disent que la seule solution c'est de trouver une coopération, une cohabitation, mais qui fait des actions beaucoup plus vocales et mises en vue ces dernières semaines. Par exemple, ils ont réussi à s'introduire sur le plateau de l'émission Big Brother, le Loft, en criant arrêtez les crimes de guerre à Gaza, arrêtez de tuer des enfants. Donc c'était une télévision en direct, et forcément ça a été repris et raconté, et ils arrivent à faire quelques ou alors à jeter de la peinture de couleur rouge sur le mur de la maison du chef d'état-major pour rappeler le sang et la mise en danger non seulement des civils à Gaza mais aussi des soldats israéliens. Et ça, forcément, on est obligé d'en parler sur les plateaux de télévision. Alors souvent le débat s'arrête à est-ce que ces gens-là mettent en danger le chef d'état-major et faut-il les arrêter, mais ça permet aussi de donner la parole à la personne qui va dire mais posons-nous la question de pourquoi est-ce qu'ils sont présents avec cette action.
Karine Lamarche, vous qui travaillez sur la gauche radicale en Israël, aujourd'hui, que représente-t-elle quand elle prend la parole pour dénoncer les crimes de guerre à Gaza jusqu'au génocide, pour ceux qui emploient ce mot-là? Est-ce qu'ils sont toujours là pour maintenir ce discours et se faire entendre? Est-ce qu'ils sont entendus? Est-ce qu'ils sont audibles? Est-ce qu'ils restent en Israël par ailleurs?
Alors, pour répondre à la question de est-ce qu'ils sont audibles, je vais commencer par là parce que c'est assez simple. Non, ils ne sont pas audibles. Ils sont très peu entendus en Israël. Ils sont présents. Comme je le disais, ils continuent de manifester. Il y a des manifestations de ce bloc radical qui dénonce les atrocités commises à Gaza. Il y a également, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les grandes ONG B'Tselem et les Médecins pour les droits humains qui ont publié ce rapport fin juillet dernier qu'ils ont intitulé « Notre génocide », dont le titre est vraiment pas anodin. Je pense qu'il faut prêter attention à ce titre parce qu'il dit beaucoup de choses. Alors ça intervient tard, c'est-à-dire un an et demi après le début de la guerre. Et en même temps, ça intervient à un moment où le public israélien est un tout petit peu plus prêt à entendre parler de la situation à Gaza, même si je pense qu'il faut pas se faire trop d'illusions sur sa capacité d'entendre la souffrance palestinienne. Mais voilà, ils ont une présence dans le débat public pour être en général condamnés et rejetés vers les marges, accusés d'être des traîtres. Enfin voilà, les réactions en général sont assez unanimes. Mais néanmoins, ils ont une présence, et je pense que juste pour revenir sur quelque chose qui a peut-être pas été était dit il y a quelques mois, il y a eu aussi toute une vague de parmi les manifestations ou en marge des manifestations pour la fin de la guerre de personnes qui brandissaient des photos d'enfants tués à Gaza. Au départ, c'était quelques personnes, puis quelques dizaines de personnes. À un moment, c'était plusieurs centaines de personnes qui tenaient ces pancartes-là, et les réactions parmi les passants étaient assez intéressantes parce que en général, les réactions qui sont sont provoquées par les pancartes sur le génocide ou dénonçant les crimes de guerre à Gaza font l'objet de réactions extrêmement virulentes. Et là, il y avait un certain inconfort qu'on pouvait sentir dans parmi les passants qui étaient face à des photos d'enfants tués. Et ça ne veut pas dire forcément que l'empathie était à son maximum, mais en tout cas qu'il y a eu un petit moment de peut-être où la question humanitaire, en tout cas posée comme telle à ce moment-là, a pu être peut-être plus présente.
Karine Lamarche, tout à l'heure, je citais cette correspondance entre deux jeunes femmes, l'une à Gaza, Tala, et une autre en Israël, Michel, qui, dans Nos Cœurs Invincibles, s'écrivent de longues lettres. Et Michel dit, donc Michel est en Israël, elle dit à Tala, on entend plus parler ici en Israël des événements qui se déroulent sur les campus américains que de ce qui se passe à Gaza, à quelques kilomètres de nous. Je pense que ça arrange le gouvernement. Ils veulent que les Israéliens se sentent constamment persécutés et en danger parce que juifs. La peur des peuples est plus facile à contrôler, n'est-ce pas, lui dit-elle. Vous parliez de ce mot de génocide qui aujourd'hui commence à circuler, mais avec beaucoup de précautions. Est-ce que ceux qui le brandissent aujourd'hui sont facilement présentés comme antisémites et pas seulement traîtres, antisémites y compris en Israël?
Oui, bien sûr. Alors,
et je vais poser la question à Emmanuel Levasseur-Phelps ensuite.
Les accusations de génocide portées contre Israël sont généralement balayées d'un revers de main comme une nouvelle preuve de l'antisémitisme et de cette idée qui est très répandue en Israël que le monde entier est contre nous. Donc ça, c'est très clair. Et quand des organisations comme B'Tselem reprennent à leur compte cette accusation de génocide, elles sont accusées d'être des traîtres. Mais elles l'étaient déjà avant, je veux dire, B'Tselem et qui est une organisation centrale, hein, très importante, mais est décrédibilisée depuis de nombreuses années dans la société juive israélienne. Par contre, voilà, il y a ce sentiment qui est très répandu, effectivement, d'être seul au monde et d'être, à part évidemment l'allié américain, mais d'être menacé. Et que le monde a oublié Israël, en fait. Il y a eu une impression d'une certaine solidarité au moment du 7 octobre. Et là, les Israéliens ont l'impression qu'on a oublié, que le monde a oublié le 7 octobre et se préoccupent de Gaza, alors que eux sont encore au moment du 7 octobre, d'une certaine manière. Et du coup, ils ont du mal à comprendre, en fait, ces accusations, je pense, et ils perçoivent ça comme, effectivement, un signe supplémentaire ou une preuve supplémentaire de cet antisémitisme qui est en permanence rappelé dans les médias et par la classe politique.
Et pourtant, la société israélienne ne manque pas d'humour, parfois même pour moquer la façon dont le gouvernement israélien utilise, pour prendre un exemple très précis, utilise l'Iran comme une menace constante pour mener sa politique. La société s'y prompte à s'en moquer quand il impute à l'Iran tous les malheurs d'Israël. Un hashtag avait même beaucoup circulé en 2021 sur les réseaux sociaux. But Iran, mais l'Iran, je dois consacrer plus de la moitié de mon salaire à mon loyer. But Iran, donc c'était une façon, Emmanuel Elbasfels, de dire que ça suffisait de toujours brandir la menace iranienne pour mener une politique qui était jugée contraire aux intérêts israéliens de la société. Un tout petit mot pour savoir si cette façon d'avoir du recul quand même sur la politique de Benjamin Netanyahou existe toujours.
Ah oui, la critique de la politique de Netanyahou est très très présente dans le monde médiatique journalistique israélien. D'ailleurs, tout ce qu'on entend, les fuites sur le cabinet de sécurité, la corruption, le procès de Netanyahou en cours, la corruption supposée, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas encore de fin de procès, le procès est en cours. Mais tout ça, en fait, ce sont des révélations des journalistes israéliens, ce qui me ramène à ce que je disais au départ, qu'il n'y a pas de censure et que la presse est libre et donc devrait faire son travail encore bien mieux en ce qui concerne Gaza. Mais donc à ce niveau-là, sur la critique Netanyahou, oui, clairement, c'est très très présent.
Et en tout cas, on ne peut pas citer tous les sondages qui circulent tout le temps, et les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, certains sont régulièrement cités. J'ignore d'ailleurs si les Palestiniens d'Israël ou Arabes d'Israël sont interrogés aussi dans ces sondages, mais on dit par exemple que 62% pensent qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza, plus de 76% estiment qu'il ne faut pas prendre en compte la souffrance des Palestiniens dans la planification de la poursuite des opérations militaires. Bon, encore une fois, on prend toujours les sondages avec des pincettes, mais ces chiffres sont régulièrement cités. Il y a beaucoup de marge de discussion très certainement dans ces deux Israël qui se font face, comme le dit Eli Barnavi aujourd'hui, mais des consensus également sur de nombreux sujets. Une opposition apparemment massive, par exemple, à une reconnaissance d'un État palestinien. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série « Où va Israël ?». Aujourd'hui, la société israélienne entre traumatisme du 7 octobre et déni de ce qui se passe à Gaza. Les plus critiques aujourd'hui sont sans doute ceux qui ont quitté Israël. Parmi les artistes, le cinéaste Nadav Lapid n'est pas le seul à avoir fait ce choix.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Au printemps 2020, des milliers d'Israéliens ont protesté contre un crime commis par leur armée, un tir à bout portant dans un local à poubelle sur un jeune Palestinien de 32 ans, Iyad Alalak, qui portait un masque parce que c'était en plein Covid, des gants parce qu'il descendait les poubelles et qui n'avait pas répondu à leur vocifération parce qu'il était autiste. Ferrar, le soldat auteur du tir, un gamin de 18 ans qui venait de rejoindre l'armée, a été jugé et c'est de cette histoire que se nourrit votre prochaine pièce. Yuval Rosman, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes auteur, metteur en scène israélien, Au nom du ciel. Et le dernier volet de votre quadrilogie de Mater, c'est son nom. Elle met en scène cette dernière pièce, Trois oiseaux autour d'un nid. Trois oiseaux assez vulgaires et drôles qui commencent à se raconter l'histoire d'Iyad Alalak. Comment est-ce que vous aviez été, vous, marqué par cette histoire? Vous viviez encore en Israël à cette époque?
Et non, à cette époque, j'étais là-bas en résidence parce que j'ai travaillé avec sur un projet sur l'ornithologie. Je travaillais avec des ornithologues israéliens et des ornithologues palestiniens sur différentes espèces dans le ciel de la Cisjordanie, entre Jérusalem-Est et Ouest, sur différentes espèces d'oiseaux qui ne s'entendent pas du tout. Et genre des guerres invisibles à nos yeux dans le monde des oiseaux. Et puis j'étais là-bas en mai 2020. Et cette histoire m'a bouleversé, comme beaucoup d'autres Israéliens, des Palestiniens. Et pendant tout l'été, il y avait des manifestations énormes à Haïfa, à Jérusalem, à Tel Aviv. Voilà, et après j'ai suivi de près le procès de ce soldat qui, c'est une des rares fois en Israël où un soldat, pendant son service militaire, il y avait un soldat contre lui, c'est l'État d'Israël contre ce soldat X.
Oui, c'est un procès qui a duré longtemps d'ailleurs, je crois 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Vous avez commencé à écrire cette pièce, Yuval Rosman, avant le 7 octobre 2023, avant que des amis ou des gens de votre génération ne se fassent tuer par le Hamas parce qu'ils voulaient juste danser au lever du soleil, comme vous avez dit quelque part. Vous aviez aussi des cousines dans le kibbutz de Kfar Aza qui ont eu la vie sauve. Est-ce que vous avez modifié votre pièce depuis? Est-ce que vous l'avez amendée, réécrite?
Oui, le projet a complètement changé après le 7 octobre parce que tout ce que j'avais écrit me semblait vraiment inutile. Donc tout a été jeté à la poubelle et je me suis dit comment je peux répondre à ça d'une manière beaucoup plus radicale, moins complexe entre guillemets et d'aller plus vers un endroit où je peux être aussi dans la fantaisie, mais pas très collé à la réalité, et de répondre d'une manière beaucoup plus forte et affirmée que ce que je pouvais imaginer. C'est pour ça que j'avais choisi aussi de ce ton-là, de ces oiseaux-là, et de parler avec ce langage.
Des oiseaux sales, entre guillemets, qui ne supportent plus les humains. Il y a quelque chose de radical dans votre texte. On ne peut pas en faire écouter des extraits parce qu'elle n'a pas encore été créée ou jouée pour la première fois. Il y a quelque chose de déchiré dans cette pièce, avez-vous dit, dans cette pièce où vous parlez de paix, P-A-X. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut plus envisager qu'en fiction ou sur scène, la paix?
J'ai jamais osé de parler ou de travailler autour de ce mot, la paix ou de l'espoir, parce que j'avais besoin jusqu'à maintenant d'être tout le temps dans une colère et exprimer cet Israël où j'ai grandi, mais cette maladie, ce cancer, ce noyau israélien. Et là aussi après le 7 octobre, je me suis dit que je pourrais pas finir cette quadrilogie ou cette pièce sans aller vers encore essayer de s'aimer cette idée qu'il y a encore une espoir possible. Je suis pas le seul aussi, mais des artistes comme David Grossman ou Elia Souliman, et de pas être complètement, parce que là on est vraiment terrifié. Je suis horrifié par cette situation et par mon pays, et j'ai vraiment honte. Donc je me suis dit qu'il faut absolument que je travaille autour de cette question.
Nadav Lapid, réalisateur israélien dont on parle beaucoup en ce moment, parce que son film « Oui » vient de sortir en salle, il dit que c'est douloureux pour lui de formuler une critique à l'encontre de la société israélienne, même si c'est précisément ce qu'il s'attache à faire. Vous vous connaissez bien, je crois, avec Nadav Lapid. Est-ce que c'est difficile pour vous aussi de porter cette critique-là, même si elle vous semble totalement indispensable ?
Ben oui, je comprends très bien Nadav, et son film, pour moi, c'est aussi, c'est un chef-d'œuvre. Moi, les gens disent que c'est un film vraiment violent, mais pour moi, c'était comme une caresse, parce que je me suis senti moi seul aussi avec le travail de Nadav. Et oui, c'est très très difficile et c'est très douloureux. Je comprends ce qu'il dit, parce que on est aussi souvent, ou je peux parler pour moi, vu ou traité comme un traître par son propre pays, par la famille, par les amis, et qu'on parle aujourd'hui des Israéliens ou d'Israël. Donc moi, je parle pas seulement de Netanyahou, de Ben-Gvir, de Smotrich et ce gouvernement, je parle profondément d'Israël. J'ai écouté un tout petit peu ce que vous avez parler tout à l'heure sur ces petites manifestations où je vais avec mes amis à Jaffa ou à Abima ou Begin dans le centre de Tel Aviv. On est très très peu nombreux, des gens qui sont contre l'occupation, qui osent de dire aujourd'hui c'est un génocide, il faut mettre un miroir dans le visage d'Israéliens ou d'Israël. Et voilà, c'est très peu visible.
Alors Yuval Rosman, pour dire quelques mots de vous, désolé de le prendre à ma charge, le temps file, mais c'est important de dire que vous avez très longtemps vécu en Israël, que vous avez fait votre service militaire, vous l'avez fait comme un devoir. Un jour vous avez été pris de panique en vous approchant d'un territoire palestinien, en tout cas d'une angoisse, pas de panique, mais vous ne vouliez pas aller là, et notamment parce que vous aviez servi à Gaza, donc vous avez été considéré comme un déserteur, vous avez fait un peu de détention une semaine, je crois, où vous avez lu L'Idiot de Dostoïevski, vous avez dit que ça a changé votre vie de lire L'Idiot de Dostoïevski. Alors, pourquoi être venu en France? Je me rappelle une série documentaire d'Alain Levkovitch sur France Culture qui rencontrait un jeune juif très religieux qui ne s'asseyait jamais le dos tourné au mont du Temple. Lui, il vivait en France avant de s'installer à Jérusalem. Et il disait, je n'ai pas quitté la France, j'ai rejoint Jérusalem. Vous, est-ce que vous avez rejoint la France ou quitté Israël? Et est-ce que vous avez quitté Israël ou l'Israël de Benjamin Netanyahou?
Je pense que c'est pas quitté. Moi, je pense que j'ai fui Israël. Et la France m'a accueilli parce que je pouvais ici exercer mon métier, ce qui n'était pas possible en Israël. Sur le plateau de théâtre, ce n'est pas possible aujourd'hui de présenter mes pièces ou des œuvres qui, entre guillemets, blessent les valeurs des États.
Elles sont refusées.
Comme je faisais avant.
Elles sont
refusées dans le théâtre public, dans le théâtre conventionnel, ce n'est pas possible. Et aussi, mon travail au tout début, c'était beaucoup avec des Palestiniens, et notamment avec Mohamed Bakri, qui s'est interdit pour lui aujourd'hui de monter sur un plateau après le film de Jenin.
Acteur palestinien.
Donc acteur, réalisateur.
Un théâtre public qui en plus vous oblige, je crois, à jouer dans les territoires occupés ou dans les colonies. Donc vous n'avez pas voulu rester, et en plus vous n'aviez plus de subventions. Je vous remercie beaucoup, Yuval Rosman. Votre pièce Au nom du ciel sera créée ou jouée pour la première fois à partir du 12 novembre au Festival Next dans le nord de la France, à la scène nationale de Valenciennes, puis au Théâtre du Nord, à la Maison de la Culture d'Amiens et à la Comédie de Béthune. Vous serez ensuite en tournée au Théâtre du Rond-Point à Paris, à Bordeaux, ensuite Belfort, Lyon notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je remercie beaucoup nos invités. Karine Lamarche, chargée de recherche au CNRS rattachée au Centre Nantais de Sociologie, ainsi qu'Emmanuelle Elbasfeld, journaliste indépendante, correspondante du Point en Israël, et son documentaire, un documentaire qu'elle a réalisé, sera diffusé dimanche prochain sur M6 à 23h15, Tragédie du 7 octobre, enquête sur l'échec des services secrets israéliens. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous replongez, Catherine, dans l'horreur d'une autre guerre, la guerre au Soudan.
avec des belligérants qui reprennent d'anciennes tactiques de siège et qui versent aussi dans la guerre moderne avec le recours à des drones. Mais à chaque fois, le résultat est le même, souligne le Guardian, l'enfer pour les civils, exactions, famine et violences sexuelles. Depuis 500 jours, 260 000 hommes, femmes et enfants sont pris au piège à El Fasher, chef-lieu du Darfour Nord, la dernière ville de la région, aux mains de l'armée, est assiégée par les paramilitaires, des forces de soutien rapide. Les habitants qui tentent de s'échapper sont tués et ceux qui restent à l'intérieur d'El Fasher meurent de faim, alerte le Guardian, le Financial Times et la Deutsche Welle. Un vieil homme, Otman Angaro, raconte à Al Jazeera pourquoi il est contraint de broyer des aliments pour animaux à partir de graines de sésame, de tournesol, des restes de coques d'arachide. Faute d'aide humanitaire, c'est le seul repas disponible pour Otman et sa famille. Si l'armée soudanaise a effectué hier un premier largage aérien réussi de vivre vers sa base principale à El Fasher, rapporte The Sudan Tribune, le Guardian craint, lui, de voir la ville tomber et le Soudan se fragmenter un peu plus. L'armée contrôle le nord, l'est et le centre du pays. Les paramilitaires, eux, dominent le sud du Soudan et presque toute la région du Darfour. Et ils assiègent donc El Fasher, une ville ravagée par une guerre d'usure, éventrée par des tranchées qui séparent des quartiers, indique le Guardian. Les civils se déplacent, pâtés de maison après pâtés de maison, en quête de sécurité, mais à la merci de bombardements qui peuvent commencer dès 3-4 heures du matin, décrit un habitant dans les pages du Guardian. Un vaste mur de terre entoure aussi El Fasher, révèle des images satellites publiées par la BBC. Les paramilitaires cherchent à piéger les gens à l'intérieur de la ville, confirme l'université de Yale, et ils veulent envahir El Fasher pendant la saison des pluies, car cela pourrait apporter des nuages, ce qui rendrait plus difficile pour les satellites de capturer les crimes de guerre, accuse le Guardian. Ces paramilitaires soudanais sont déterminés à procéder à un nettoyage ethnique, souligne le quotidien britannique, en cas de chute donc d'El Fasher.
Et à ce tableau infernal, au Soudan s'ajoute une vague d'épidémies mortelles.
De choléra et de dengue notamment, qui pourraient se soigner, qui pourraient être évitées même avec des vaccins, sauf qu'il y a pénurie dans ce pays déchiré par la guerre, note The Sudan Tribune. Et depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Soudan souffre aussi des baisses drastiques d'aide humanitaire, déplore sur le plateau télévisé de la Deutsche Welle, Shaina Lewis, conseillère principale de PIMA, une organisation américaine qui cherche à prévenir et à mettre fin aux atrocités de masse. Shaina Lewis a témoigné à l'ONU des atrocités qu'elle avait vu en se rendant au Soudan.
I met a young girl of 8 years of age at El Nahal Hospital who was shot by a stray bullet that pierced the safety of her home.
J'ai rencontré une petite fille de 8 ans dans un hôpital. Elle avait été touchée par une balle perdue qui a transpercé sa maison. Elle a quand même pu me parler alors que des agrafes maintenaient en place les fragments de sa jambe, décrit Shaina Lewis, spécialiste du Soudan, devant l'ONU. De nombreux patients dans les hôpitaux soudanais, dit-elle encore, sont des enfants qui doivent subir des amputations après avoir été blessés ou après avoir joué avec des explosifs de guerre. Plus de 15 millions de petits Soudanais ont besoin d'aide humanitaire, mais ils sont également pris pour cible par les belligérants, avec l'enrôlement aussi d'enfants soldats, sans compter des cas de viol documentés par l'UNICEF, y compris sur des bébés d'un an. En tant que défenseur des droits humains, on nous dit de ne jamais être émotif, mais je le suis. Je partage ma colère avec tant d'autres confrontés à la réalité de la guerre au Soudan. Seuls 14% du plan humanitaire pour le pays sont financés jusqu'à présent. Et nous devrions tous être furieux, accuse enfin Shaina Lewis, que les forces militaires et paramilitaires puissent continuer la guerre avec la complicité de bailleurs de fonds comme les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, avec le silence coupable aussi de la communauté internationale qui donne la priorité aux investissements émiratis, rapporte le Guardian, plutôt qu'aux familles affamées d'El Fasher. Les Émirats Arabes Unis nient tout soutien aux paramilitaires soudanais, rappelle Massad Boulos, l'émissaire des États-Unis pour l'Afrique, interrogé par le Financial Times, mais des experts accusent les Émirats Arabes Unis de servir de voie d'acheminement pour l'or extrait au Soudan, dans les zones contrôlées par les paramilitaires, indique le Financial Times. Des boycotts s'organise. Je vous en avais parlé l'an dernier. Le rappeur américain Macklemore, connu pour ses chansons Thrift Shop ou Same Love, a annulé un concert à Dubaï à cause de la guerre au Soudan et du rôle joué par les Émirats Arabes Unis, comme le soulignaient les magazines musicaux Billboard et NME. Des citoyens appellent à leur tour à boycotter des compagnies aériennes émiraties telles que Fly Dubai ou Etihad, raconte le site Middle East Eye. Aujourd'hui, les paramilitaires vont lancer des attaques de drones et des missiles sol-air sur les zones qui leur échappent encore au Soudan, préviennent The Sudan Tribune et le Washington Post. L'ONU doit faire plus que témoigner des horreurs de la guerre, insiste Shayna Lewis devant les Nations Unies. Les résolutions, dit-elle, ne sont que des bouts de papier sans la volonté politique de les mettre en œuvre.
Merci beaucoup Catherine Dutu.